pas acheter n'importe quoi non plus.
Et c'est mais toute la difficulté de fournir un espace manga tout en ayant, tout en n'étant pas sa littérature de prédilection.
C'est pas
quoi.
Si difficile finalement, non, parce qu'avec Naruto, One Piece, Death Note, voilà.
Donc, ouais, on se trompe pas trop là.
On se trompe pas trop. Et puis, on a des formations. On a eu une formation très intéressante sur l'histoire du manga, les mangas avec des séries conseillées. Il n'y a pas de problème de choix. Hein. Là, moi, je pense que je ne fais pas d'erreur. Par contre, quand un élève me dit « Oh, je voudrais tel manga », je vais quand même un petit peu voir de quoi il s'agit. Hein,
oui, tout de même aller avoir des avis extérieurs.
Alors, le problème des mangas aussi, c'est les séries monstrueuses qui coûtent des fortunes.
Et qui prennent beaucoup de place.
Parce que tu as commencé Naruto, tu disais.
Mais Naruto, je les ai tous.
Tous.
Bah oui.
Ah ouais.
Les
oui,
One Piece.
T'as un grand CDI.
Non, mon CDI n'est pas très grand, mais j'en achète depuis longtemps. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai Full Metal Alchemist, j'ai la série complète. Alors, c'est vrai que maintenant, je me penche un peu vers des séries courtes. J'aime bien les séries courtes, j'avoue.
Mais ceci dit, c'est comme... le temps sur les années collège de terminer la série, quoi.
Voilà, mais c'est comme les romans, hein. Attention, moi, les séries, je fais attention, parce que quand on commence et que c'est 17€ à chaque fois, je crois qu'on parlera de budget tout à l'heure, moi, je m'en remets à Guillaume, je vais avoir Guillaume dans ce cas-là.
Oui, les romans jeunesse et ado souffrent parfois du même problème que les mangas, comme en SF, des fois, c'est des séries à rallonge et on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête.
Et c'est beaucoup plus
les
cher.
Les auteurs ne le savent pas non plus, d'ailleurs.
Oui.
Oui, Jean. Oui,
juste pour revenir sur la dark romance, là j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Cucu, rédigé par la compagne de Luz, le dessinateur, qui s'appelle, j'espère ne pas me tromper, Camille Etienne, et qui explique un peu c'est quoi les ressorts commerciaux derrière les éditeurs, enfin... certains éditeurs de dark romance qui veulent vraiment donner des ingrédients et il y a le plaisir de la transgression chez les adolescentes, l'idée de lire quelque chose qui est interdit, voilà, il y a quelque chose là-dedans dans la dark romance qui mérite d'être décrypté et j'ai eu une stagiaire qui se destine au métier de correctrice et qui m'a pondu une bibliographie très intéressante, qui m'a pondu une bibliographie sur les dark romances avant l'heure. Et là, on retrouve Léo de Hurlevent, Othello, etc. Et c'est très drôle de se dire que peut-être que la dark romance peut mener ensuite aux grandes œuvres de la littérature. En tout cas, elle a fait ce parallèle, cette passerelle. Donc, c'était drôle de la voir comme ça faire ce.
Ouais, il faut dire que Jean est tombé là-dedans, car comme on en a acheté à Breteuil et qu'il était aussi curieux de lire, t'as commencé par quoi ? C'était Captive ou c'en était un autre, je ne sais plus. Ou Valentina ?
Ah, je sais plus, mais c'est sympa, mais je n'ai pas été jusqu'au bout.
Il faut voir quand même que les ados, et pas forcément que les filles, quelques garçons, je sais, qui en lisent, mais ils arrivent quand même à se taper ces pavés de 700-800 pages. Hein. Et on sait qu'ils les lisent en entier, c'est pas comme les mangas où on peut se dire « T'as vraiment tout lu, là, fais-moi le résumé ». Là, non, ils y arrivent. Donc après, on sait qu'ils ont vraiment tout lu.
Mais moi, j'ai des élèves, on va dire... non-lectrices, on peut le dire, qui arrivent à lire La femme de ménage. Il y a quand même pas mal de pages. Donc il y a quand même des ressorts qui les poussent à avancer dans ces livres-là. Ce n'est pas forcément les meilleurs ressorts, mais oui, c'est vrai que dans la littérature dite classique, il y a des choses qui sont peut-être pas adaptées à des collégiens, en effet.
Hein. Bah, en tout cas, disons que pour nous, bibliothécaires, médiathécaires, profs documentalistes, nous, on doit pouvoir se situer un petit peu, trouver la bonne distance vis-à-vis des démarches commerciales, mercantiles. Voilà, c'est. On n'essaye pas d'orienter les ados vers la bonne lecture en tant que lecture institutionnellement valide, mais simplement, on essaye aussi de leur faire découvrir autre chose que. Ce qui relève d'une démarche purement commerciale. Et voilà.
Je vous propose une pause musicale parce qu'on n'arrête pas de parler. On reviendra juste après, toujours avec Virginie avec nous, pour poursuivre cette discussion. Thank you.
Vous venez d'écouter Venus, la chanson qui clôt en générique de fin le film de Pierre Salvadori, La Vénus électrique, que j'ai vu deux fois.
Qu'est-ce que ce journal foutit qu'il ne nous dit pas ?
Ce qu'il me dit, c'est que les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler.
Ah, mon jingle préféré.
C'est un prof doc, hein, c'est ça, c'est pris sur le vif.
Oui. Ça pourrait. Oh, on pourrait faire un montage par IA, tiens. On va demander à Chuck.
Bah, il était professeur, hein, le docteur Jones.
Oui.
Donc
oui.
Voilà.
Oui, exactement. Donc, on se retrouve pour la seconde partie. Donc, on va déjà, dans un premier temps, demander à Virginie, un petit peu comme nous, avec Jean, on raconte souvent notre quotidien, et bah, quel est le quotidien d'une prof documentaliste au CDI ? Et même. En dehors, quand tu dois faire des activités en dehors du CD.
Oh là là, alors mon quotidien, alors ce que j'aime, c'est qu'il est varié. Le principe de base, c'est que j'ai des heures réservées à l'enseignement de l'EMI, éducation aux médias et à l'information, que je dispense au 6e, à raison d'une heure par quinzaine, toute l'année. Donc ça, c'est des heures bloquées. Il y a ensuite les heures, on va dire, pour certains projets auxquels je participe, notamment devoirs faits. Donc là, j'ai une heure de devoirs faits par semaine, c'est une heure bloquée. Ensuite, il y a toutes les autres heures où j'ai rien de particulier qui est défini. Et là, la permanence, les surveillants, m'envoie une quinzaine d'élèves à chaque heure. Donc normalement, ce sont des élèves motivés qui viennent pour lire ou travailler avec un projet précis. Pendant ce temps, j'organise des projets parce que j'en fais beaucoup, notamment cette année on a un très gros projet avec Guillaume et avec Mehdi Litim du Médiateur, un projet de résidence de journalistes qui est financé par la DRAC en grande partie, et ça c'est un projet un projet très important puisqu'il y a à peu près 70 heures de radio qui sont prévues au collège, et là moi j'organise l'emploi du temps. J'organise le suivi de toutes les séances qui se déroulent. J'organise, au départ, j'ai organisé la construction. Qui voulait faire quoi avec quelle classe ? Donc ça, c'est très très lourd, hein, c'est un gros projet. Après, il y a tout plein de petits projets dans tous les sens. Et puis, il y a des collègues qui viennent avec une classe pour travailler autour du projet des dévoreurs, pour faire des emprunts de livres, pour travailler autour de la presse. Donc, ça m'arrive d'avoir des journées complètement pleines à 7 heures par jour. Il y a aussi une heure dans l'emploi du temps qui est bloquée depuis plusieurs années qui s'appelle « Découverte des métiers 4e ». Et sur cette heure-là, j'invite un professionnel pour parler au 4e d'un métier. Donc, je choisis soit des anciens ou anciennes élèves qui sont arrivés dans la vie professionnelle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont fait leur scolarité au Collège de Breteuil et ils peuvent témoigner que quand on a fait son collège à Breteuil, on n'est pas perdu pour toujours. Il y a des parents d'élèves qui interviennent. Il y a des connaissances que j'ai personnellement. Et ça, c'est tous les jeudis. Jeudi prochain, on reçoit un papa d'une élève qui est gendarme et qui va nous présenter son métier. Ça, c'est un exemple. Le jeudi d'après, on va recevoir une ancienne élève qui est architecte d'intérieur et une autre qui est chef de projet culturel au département, ancienne élève aussi de Breteuil. Donc, j'organise tout ça. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Il faut que je m'arrange pour que les élèves soient présents. Et il faut savoir qu'au collège, on ne peut pas se permettre des ratés. C'est-à-dire, par exemple, oublier de confirmer mon intervenant et paf, il n'est pas là à l'heure prévue. Donc ça, c'est très embêtant. Oublier de donner la liste à mes collègues surveillants pour qu'ils filtrent à la grille du collège et qu'il n'y ait pas d'évasion, par exemple. Parce qu'il y a des élèves qui préfèrent effectivement partir à 16h plutôt que de rester seul à 17h à l'intervention. Donc il y a vraiment un travail qui doit être vraiment précis et organisé. Et à côté de ça, j'ai les commandes de livres, les réparations de livres, couvrir des livres, saisir des livres. Le prêt et les retours. Alors, je n'ai pas le temps de faire de statistiques, mais je prête des quantités de livres. J'ai des piles entières sur ma pile retour. À chaque heure, je dois ranger des livres, donc c'est énorme. Et puis, à chaque fois qu'il y a un élève qui m'appelle parce que l'ordinateur ne marche pas, parce qu'il ne sait pas écrire un mot, parce qu'il veut choisir un livre et qu'il me demande un conseil. Donc, en fait, j'ai à peu près plusieurs bras et plusieurs têtes. Et ça, c'est en journée continue. Alors, quand il y avait des rémunérations pour ça, je faisais un club lecture. Une fois par semaine à 13h, et je leur lisais des histoires, des nouvelles, parce que j'adore leur lire des nouvelles, et j'ai un public en général, et il y a beaucoup d'élèves qui viennent pour mes séances de lecture. Malheureusement, je ne peux plus en faire, puisqu'il n'y a plus de financement pour ça. Voilà.
Petite question, ça peut arriver qu'il y ait des élèves qui arrivent au CDI, parfois uniquement pour discuter, échanger avec toi, se confier, comme je sais que ça peut arriver.
Alors ça arrive, et en général c'est pendant les récrés, ce qui fait que j'ai pas de récré, voilà. Et comme j'ai pas le cœur de les mettre dehors, mais j'ai toujours devant la porte, dès que ça sonne, une horde de fidèles qui viennent rendre des livres, emprunter les livres ou me parler. Tout à l'heure, j'ai une petite qui m'a dit « Ah, je suis super heureuse, je suis prise à la MFR pour l'année prochaine, vous vous rendez compte, madame, comme c'est bien ?» Donc là aussi, on doit recueillir leur joie, leur peine. On est là aussi pour les écouter. Hein. Et puis pour créer des liens. Voilà. Sinon, on ne sert à rien, finalement. D'accord,
hein. T'es d'accord ? Oui. Non, mais je pensais en même temps à... Enfin, dans une autre vie, j'ai été emploi jeune dans une école primaire à Paris, dans le 18e, une école primaire d'application, dans une zone REP+. Et je me souviens, pendant les récréations, la bibliothèque de l'école était ouverte. Et donc je l'animais. Je me souviens d'une élève, par ailleurs assez difficile, qui un jour s'est assise à côté de moi et a voulu me montrer qu'elle savait lire. Et elle avait un album, et puis elle tournait les pages et elle lisait impeccablement, ce qui me surprenait parce qu'elle était connue pour avoir des difficultés de lecture. Et j'ai compris après coup qu'en fait, elle connaissait le livre par cœur et qu'elle voulait me montrer qu'elle savait lire, sauf que ben pour elle, savoir lire, elle pensait que c'était apprendre par cœur des phrases visuellement. Enfin, ça m'a un peu fendu le cœur. Et je sais que dans le collège de mon fils, en 6e, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui soit n'étaient pas encore entrés dans la lecture, soit avaient une compréhension très imparfaite de ce qu'ils lisaient, soit lisaient trop lentement. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez conscience
Alors oui, bah, je peux rebondir directement là-dessus. Pendant plusieurs années, alors on ne l'a pas fait cette année, parce que on a des emplois du temps monstrueux, on faisait des ateliers de lecture répétés, c'est-à-dire qu'à l'issue des tests de 6e de fluence, on diagnostiquait les élèves qui avaient un score... Donc un élève de 6e doit arriver à lire 250 mots minute, C'est ça, 250 mots, il me semble. Et en fait, on avait des élèves qui étaient à 90 mots. Donc les élèves qui étaient en dessous de 100 mots, on essayait de les prendre et on faisait des ateliers de lecture répétés, donc de remédiation pour les accompagner dans la lecture. Alors on prenait, alors le protocole, c'est 3 élèves, 30 minutes, 3 fois par semaine. Donc ça a bousculé les emplois du temps et ils devaient rattraper les cours qu'il manquait. Mais je ne sais pas si les résultats étaient spectaculaires en termes de compréhension et de fluidité de lecture, mais en tout cas, ça leur donnait beaucoup plus d'assurance. Et bon, ce n'était pas du 100% de réussite, mais c'était quand même mieux que rien. Mais effectivement, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent en sixième et qui ne savent pas lire, qui déchiffrent, et ensuite qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et ça, c'est un très gros problème. Très gros problème qu'on est un petit peu désemparé face à ce problème.
Oui, dans une étude, on estime à 15% le nombre d'élèves qui sont en difficulté. Enfin, c'est catastrophique. Et après, il y a encore 25% d'élèves qui lisent, mais imparfaitement, qui ont une compréhension très imparfaite de ce qu'ils lisent. Et ça donne au total 40% d'une classe de sixième qui est dans ces difficultés-là. Quoi.
Et puis il y a des élèves qui lisent parfaitement, avec fluidité, et qui ne comprennent rien à ce qu'ils lisent, parce qu'il n'y a pas la... Ils ne mettent pas leur cerveau en mouvement, pour essayer, ils ne font pas l'effort d'essayer de comprendre. Ouais.
Et alors c'est pour ça que j'ai envie de faire un parallèle avec la voiture. En fait, imaginons que nous sommes des moniteurs d'auto-école, on pourrait en aucune manière être fiers de nous si on disait « Regardez Madame Intel, elle sait conduire puisqu'elle fait son trajet de chez elle jusqu'à l'hypermarché ». Mais elle ne fait que ça, parce qu'elle ne veut pas s'aventurer dans d'autres trajets. Ouais. Et nous, justement, nous, on veut que les jeunes s'aventurent dans un maximum de trajets possibles.
Qu'ils puissent traverser la place de l'étoile sans taper.
Voilà.
Et rapidement.
Rapidement, ça reste à voir.
C'est tous les enjeux de la lecture qui est central en fait dans tous les apprentissages finalement. Oui. Cette notion de lecture, c'est la croisée de tous les apprentissages quasiment et de l'autonomie d'apprentissage aussi.
Bien sûr.
Il y a ces éléments-là.
Bien sûr. Et malheureusement, les élèves s'imaginent que comme ils maîtrisent, enfin d'ailleurs imparfaitement l'informatique, que ça les dispense de lire, mais pas du tout. En fait, quand on est sur un écran, on doit beaucoup lire. Et on est dans un monde où la lecture et l'écriture, finalement, restent très importants. C'est une maîtrise qui donne la liberté, finalement. Lire et écrire, c'est être libre. Et ça, c'est fondamental.
Ouais. Et sauf que, évidemment, il y a le scrolling et tout ça, TikTok et tout. Donc là, on ne lit plus à ce moment-là. Mais je me demandais si on pouvait parler de ce livre que je t'avais conseillé, dont je vais lire une petite histoire. Ça s'appelle « Contes des sages persans ». Et ça serait intéressant d'avoir ton avis. C'est un cas concret. C'est publié aux éditions du Seuil. Et c'est un recueil de contes. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, ça, c'est la parfaite illustration de l'échange entre les CDI et les médiathèques, puisque Jean m'a prêté ce livre le jour où JC nous a...
Lâchement abandonné, d'accord, ok, donc, on en est là. Donc.
Voilà, j'ai été émerveillée par ce livre qui est très très beau, et Jean a eu la gentillesse de me le prêter, donc je l'ai lu en entier, et j'ai sélectionné les histoires qui étaient accessibles et compréhensibles pour les élèves, et je leur ai lu des histoires, et il y a des histoires, c'est formidable, et notamment une qui s'appelle, je sais pas, tu veux qu'on lise laquelle, les livres ?
Les livres, elle est courte. Une courte, c'est ce qu'il faut, qu'elle soit courte, quoi.
Bon, les livres, c'est relativement court. Ah bah, et puis, on peut prendre le temps aussi, des fois, d'offrir une lecture aux auditeurs.
Super, oui. Impeccable.
Tu veux la lire ou je la lis?
Tu es peut-être plus dedans, parce que moi, je ne l'ai pas lu il y a longtemps, et donc tu sauras mieux.
Alors, je vais vous la lire. Alors, toutes les histoires de ce livre commencent par une petite phrase, toujours la même. « Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée, au pays d'autrefois, point de suspension. » Et là, on a un vieillard qui courait dans les montagnes, un énorme baluchon sur le dos. À bout de souffle, tout en sueur, il courait, sans même prendre le temps de regarder derrière lui. C'était au temps de Gengis Khan, le redoutable chef mongol, qui semait partout où il allait la terreur et la mort. Ses troupes avaient déjà envahi le Khorasan, tuant, pillant ou brûlant tout sur leur passage, et laissant derrière eux des crânes empilés, des villes en cendres, des torrents de larmes et de sang. Le vieillard fuyait donc, son énorme baluchon sur le dos, sans même prendre le temps de regarder derrière lui. Des éclaireurs du Khan eurent au fait de repérer cette forme mouvante sur le flanc de la montagne, et ils rattrapèrent le vieillard et son baluchon en 2 temps et 3 mouvements de leurs petits chevaux agiles. Une fois aux mains de la soldatesque, le vieillard éclata en sanglots, et serrant son baluchon contre son cœur, il se mit à geindre. « Je vous en supplie, laissez-moi mon trésor, ne m'arrachez pas ce que j'ai de plus cher, pitié, pitié !» En entendant ce mot « trésor », les yeux des soldats se mirent à briller, mais ils n'osèrent pas toucher au butin avant l'arrivée de leur maître. Quand Gengis Khan les eut rejoints, il ordonna « Ouvrez donc ce baluchon que je vois ce qu'il contient !» Et d'un coup de lame, les soldats éventrèrent le tissu et découvrirent, stupéfaits et déçus, qu'il ne contenait que des livres. C'était donc cela, ce précieux trésor, des manuscrits anciens et poussiéreux qui avaient dû accompagner le vieil homme tout au long de sa vie. Leur colère leur donna une furieuse envie d'éventrer le bonhomme à l'instar de son maudit baluchon. Mais le vieillard tomba à genoux et recommença sa litanie. « Je vous en supplie, laissez-moi mon trésor. Ne m'arrachez pas ce que j'ai de plus cher. Pitié, pitié. » Gengis Khan écouta la supplication longuement, puis il déclara « Ô vieillard, de 2 choses l'1. Ou tu as lu ces livres et tu en as retenu les leçons, auquel cas tu n'en as plus besoin car tu portes ton trésor en toi, ou bien tu les as possédés sans les lire vraiment, auquel cas ton trésor, comme tu dis, ne t'aura été d'aucune utilité. » Dans les 2 cas, il ne mérite que le feu. Puis, s'adressant aux soldats, il ordonna « Brûlez tout et épargnez l'homme, et que cela lui serve de leçon. »
C'est très cruel, mais en même temps, c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on lit, pas pour étaler une bibliothèque, mais pour les trésors qu'on porte ensuite en soi, c'est ça?
Il y a un truc quand même qui est de l'ordre de l'organique avec le livre. Quand on a des livres, et j'imagine qu'autour de la table, j'ai quand même affaire à 2 bibliothécaires et une prof documentaliste, j'imagine que les livres à la maison, à titre personnel, on les a, on les manipule, on les ressort, on les prête, on les remet en haut d'une pile. Je pense qu'il y a quand même un lien, ouais, organique un petit peu avec le livre.
Ah bah surtout quand c'est un bel objet comme celui que vous ne pouvez pas voir puisqu'on est à la radio. Il est magnifique, l'iconographie, c'est des œuvres de musées de toute la planète. Et là, comment dire, c'est vrai que avoir le livre physiquement, ça procure un réconfort. Mais je me rends compte que là, par exemple, j'écoute des livres, j'emprunte, je rends. Et après, ce qui est important, c'est de garder une trace, effectivement. Donc, j'ai ma liste de livres. Je sais que je pourrais y revenir si je veux. Mais c'est vrai que les avoir simplement pour les avoir, effectivement, si le vieil homme n'a pas saisi ce qui était important dans les livres, eh ben, c'est pas une ostentation. Si on a les livres, c'est parce que ça nous procure un réconfort. C'est quelque chose de l'intime, en fait. Et donc, chacun fait comme il veut, finalement, quoi.
Voilà, je voulais juste souligner ce truc-là. Ça me rassure, j'étais en train de dire, je suis le seul à avoir un lien comme ça avec les livres, où j'aime bien les avoir, mes livres.
Ah, moi, je voudrais bien lui piquer ce livre-là, mais je suis honnête, je lui ai rendu.
Ah oui, on fera diversion, sinon, si tu veux, à la fin de l'émission.
Non, mais j'en ai besoin, en plus, j'expliquerai tout à l'heure.
Non, mais moi, en fait, je vais me l'acheter parce que j'ai sélectionné les petites histoires que je peux lire aux élèves. J'ai noté sur une feuille et je vais essayer de l'acheter quand j'aurai 21 euros de budget au CDI parce que j'ai plus rien, j'ai 0. Et je l'achèterai, ce livre, et je le lirai à d'autres élèves.
Et nous ne sommes même pas au mois de juin.
Alors, donc, tu lis quand même aux élèves, même si...
Alors, j'aime tellement ça que sur mes cours de MI, comme j'ai pas de programme et je fais ce que je veux, finalement, et que personne n'est là pour voir, une heure, je travaille et une heure, je lis.
Ah, mais génial. De toute façon, lire, c'est une voix aussi. Hein. C'est important, la voix. Très important. Et tu lis très bien.
Et quand il a fait beau, là, pas là, hein, tout de suite, mais au mois d'avril, eh ben, on allait dehors. Les élèves me portaient mon tabouret, s'asseyaient par terre dans l'herbe et je leur lisais des histoires. J'espère qu'ils se souviendront de tout ça.
Ça fait partie ouais, des souvenirs. Ouais. Je parlais tout à l'heure de trucs organiques. Ça ouais. fait partie ah, aussi oui, des oui, souvenirs, oui. la lecture, les histoires, en fait, hein, oui. et à tout âge. Pas que quand on est petit. On a oui. tendance parfois à connoter l'histoire racontée à tout petit. Mais en fait, non, tout au long de sa vie, on écoute des histoires et on aime ça.
Et il y a des histoires que je leur lis et je les préviens. Il y a notamment une histoire de un tout petit livre de Kochka que je leur lis, Citron, fraise, chocolat. Et je leur dis, je vous préviens, je vais pleurer. Parce qu'à chaque fois que je lis cette histoire, je pleure. Et... tellement elle est émouvante. Tu connais ce livre, Citron, fraise, chocolat ?
Non, moi je connais Bonjour Madame la Mort et j'ai du mal à le finir. Quand
ouais,
je...
ouais, ouais. Mais en fait, les élèves, quand ils nous voient avec les larmes qui viennent dans les yeux, ça les touche aussi. Et l'idée, c'est de leur procurer des émotions qu'ils n'ont plus avec TikTok, enfin, je pense.
C'est peut-être d'autres types
c'est
de.
C'est pas les mêmes émotions.
D'émotions. Ouais, ouais, ça n'a strictement rien à voir, mais d'ailleurs, je trouve très cavalière cette façon de faire un parallèle entre TikTok et une histoire.
C'est court.
Avons-nous fait un parallèle entre une fourchette et un livre ?
Si on cherche bien, on peut trouver sur TikTok ah ouais. des personnes aussi qui font la lecture. Hein. Mais oui. il faut fouiller un petit peu. Les réseaux sociaux, c'est fouiller. Comme oui, tout, il faut de la curiosité.
Oui, mais comme on leur donne ce qu'ils aiment, enfin, c'est ça, avec les algorithmes, oui. on est enfermé dans notre bulle. Hein,
mais le problème est là. Ouais, pas
les algorithmes.
Et voilà. Non.
C'est la grande problématique, on l'a déjà abordée à travers la musique, notamment, réécouter à l'infini ce qu'on connaît déjà sans jamais rien découvrir.
Ah non, non, pas les démons de minuit, non, non.
Non mais voilà, c'est exactement ça, les démons de minuit, ce sont les chairs de poule ou les que sais-je, mais c'est justement aller sur d'autres terrains. Tu l'évoquais, dès que tu auras 20 euros dans ton budget pour pouvoir acheter un livre, c'est la question des budgets de fonctionnement aussi qui n'ont rien à voir. Oui. Un budget de fonctionnement en CDI à Breteuil, par exemple, je ne sais pas si c'est secret comme chiffre, mais tu sais, qu'on se donne une idée, une fourchette, ça ressemble à quoi un budget de fonctionnement et à quoi il sert ? Est-ce qu'il sert juste à l'achat des livres ?
Je dois avoir à peu près 800 euros d'abonnement.
Magazine ?
Magazine et abonnement numérique, là, BCDI, et 500 euros de livres. C'est une misère. Et c'est terrible, en fait. Moi, ça, je suis frustrée. J'ai des listes longues comme le bras et je suis obligée de trier. Et quand Guillaume me dit ce qu'il a, mais voilà, je suis désespérée. Alors, il faut voir, du coup, l'état de mes livres. Mes livres, j'ai un certain nombre de livres qui sont... Enfin, je les mets au pilon quand les pages tombent, quand vraiment ils sont détériorés au maximum. Donc, il y a des bandes dessinées qui tiennent plus qu'à un fil. Alors que chez Guillaume, tout est beau et propre et neuf.
On sent la jalousie dans le regard de Virginie.
La jalousie. Mais voilà. Et toi, tu vas oser dire ce que tu as par rapport à moi ?
Enfin, après, c'est des comptes publics. Hein. Les gens, ils ont accès s'ils veulent. C'est un fonctionnement pour livres. Bon, on n'achète pas de CD. Livres, DVD, Blu-ray, tout ça, on a à peu près 11 000 euros.
J'ai 18 000, mais pour être...
18 000 euros.
Oui, bah pour adultes et jeunesse confondus. Alors la section jeunesse...
Attends, on n'aurait pas dû inviter Virginie, la RPAR, elle est dégoûtée.
Non, mais ça fait longtemps que je suis dégoûtée, mais moi je me bats...
C'est intéressant parce que nous, on a des romans, effectivement, qui sont encore en bon état, mais qu'on retire des collections puisque nos collections elles évoluent chaque année. Quand on achète un livre, ça veut dire qu'un autre va partir, et donc on a des romans de bonne facture en plus souvent, et qui ne trouvent plus leur lecteur. Et c'est vrai, on a déjà donné des revues au collège de Verneuil, c'est bien de savoir si que peut-être des livres ça intéresse aussi, quoi.
Oui, voilà. Je crois que tout professeur documentaliste est intéressé sur les collections, ouais. Parce que quand on évoquait, la Virginie, ton budget, globalement, je suis pas sûr que tes collègues à travers le département ou même au-delà aient beaucoup plus en...
Il y en a même qui ont plus rien.
Il y en a même qui ont plus rien
non,
en
moi,
budget.
Je vais pas dire que je suis chanceuse, mais... Donc j'ai perdu au fil des années, puisqu'on perd, hein, on perd de l'argent, on perd des postes, on perd... Il n'y a qu'une seule chose qui augmente, c'est le nombre d'élèves par classe. On perd beaucoup. Et il y a des collègues dont les budgets sont moins bien gérés que le nôtre, parce que notre budget est très très bien géré, qui n'ont plus rien pour acheter des livres. Donc c'est vraiment le désespoir. Alors personnellement, moi j'ai beaucoup de mal à mettre au pilon des livres que j'ai aimés, qui n'ont pas trop de lecteurs. Mais c'est aussi à moi d'en faire la promotion, même si c'est des livres qui ont une vingtaine d'années et dont le contenu est inégalable. J'essaye de les garder et de les donner aux élèves. De les donner, de les faire lire. Mais effectivement, moi, j'ai du mal à jeter. J'ai du mal.